Bonjour, aujourd'hui je reçois Sophie Pasquale en invitée de l'entretien, etc. Donc le concept de cet entretien, c'est qu'il s'écoute avant ou après l'inventaire qu'a écrit Sophie de tout ce qu'elle aime, de tout ce qui lui ressemble. Et nous allons maintenant, à partir de cet inventaire, faire plus ample connaissance avec la conteuse Sophie Pasquale. Bonjour Sophie.
Bonjour Lise.
Ça va, tu es bien?
Ça va bien, oui, il y a du soleil, c'est parfait.
C'est parfait. Donc, avant de parler de ton travail artistique, nous allons nous pencher sur tes goûts, ta sensibilité. D'une manière générale, quand j'ai écouté, lu ton inventaire, il y a vraiment une impression de sérénité. Un goût pour la contemplation, la vie où le temps s'écoule.
Oui, en fait, j'aime contempler. Et dans la contemplation, j'aime l'émerveillement. Et j'aime aussi l'émerveillement de l'enfance. Du fait d'être conteuse, je crois que je cultive l'enfant qui est en moi. Donc, effectivement, je crois aux contes merveilleux, par exemple. Et donc, c'est vrai que je suis sensible à ce qui m'entoure. Je suis sensible aux gens, à leur façon d'être dans l'espace, on appréhende. J'aime la douceur et la simplicité. C'est pas tout le temps facile, mais en tout cas, j'essaie de tendre vers ça.
On t'imagine mal vivre dans le tumulte d'une capitale, par exemple.
Si, si, j'ai vécu une bonne partie de ma vie jusqu'à un moment où j'ai senti qu'elle était en train de me manger de l'intérieur. Trop de sollicitude, trop de choses, je m'éparpille vite. Hein, ce qui fait que être contemplatif fait que c'est une façon aussi de se recentrer. Mais et c'est pour ça que j'ai quitté en particulier la région parisienne pour aller vivre dans un village, le sud de la France, qui est aussi mes racines. Et c'était aussi pour ralentir. Pour ralentir. Parce que quand on est dans la création, le temps n'a pas la même valeur. J'avais envie dans un petit village où quand tu croises les gens, on se sourit, on se dit bonjour. Si tu n'as pas l'argent pour acheter ta baguette, eh bien la boulangère te dit bah c'est pas grave, tu reviens de même me payer. Et ça, je trouve ça c'est doux. Voilà.
Dans ton inventaire, j'ai relevé l'absence, finalement, de référence à des choses matérielles. On est plutôt dans l'ordre du sensoriel, du poétique. On te sent connecté, mais pas connecté au sens des réseaux sociaux, mais connecté aux énergies qui circulent, à la nature.
Exactement.
Hein? Donc, tu pourrais nous parler un peu plus de ce rapport que tu as voilà, avec les éléments, tu leur parles même, hein, tu es animiste en quelque
c'est ça.
sorte.
C'est un travail en fait que j'ai abordé depuis pas mal d'années. Car en région parisienne, c'était compliqué de sentir cela. Je pense que toute chose a une âme, comme tout être. Que si tu poses une poubelle quelque part, c'est pas au hasard qu'elle est là. Je remercie toujours ma voiture, par exemple, parce quand elle m'a amené à un endroit, je la remercie mais sincèrement, c'est pas. Moi, j'ai besoin de cette connexion. Je la sens. Je sens qu'on est connecté avec le céleste aussi, comme on est connecté avec la puissance de la terre. Je sens aussi qu'on est connecté avec nos morts. Je leur parle, ce que je ne faisais pas il y a quelques années. Je leur demande de l'aide quand vraiment je ne sais plus trop où j'en suis. Et la nature, c'est on fait partie d'un tout. On est unique, mais en même temps, on est dans cette unicité de chacun de nous, on est tous reliés. Donc, quand je croise des gens qui ont, comme moi, cette attention, enfin, ce sentiment, ce ressenti, parfois on n'a presque pas besoin de se parler. Un regard, un mot, voilà, on est connecté. Et je trouve qu'aujourd'hui, dans nos sociétés où on doit aller plus vite, on doit être plus productif, on doit être actif, eh bien, on a coupé cette part-là de nous. Et peut-être que le conte, vu que je travaille le conte traditionnel, m'a aussi amené vers cette voie-là. de comprendre avant, ben oui, comment on fonctionnait avec la nature. Donc oui, se lever à 3 heures du matin parce que on sait que là, c'est l'extrême pleine lune et qu'on va pouvoir capter son énergie, oui, ça c'est quelque chose que je fais.
Et concernant ta pratique quotidienne, est-ce que ce respect de la nature, alors je pense notamment au développement durable, à l'alimentation, tout ça, tu l'intègres vraiment dans ta vie quotidienne?
Ouais. En fait, au maximum, donc il y a des fois, c'est sûr, hein, c'est pas, mais au maximum, oui. Par exemple, comme je suis dans une région, tel jardin de la France, nous ne mangeons que les légumes de saison. Je fais attention à l'origine de ce que j'achète, c'est par rapport à la taxe carbone, par exemple. Je ne vais pas acheter, j'essaye en tout cas quand je peux, hein, de ne pas acheter un produit où je sais que l'énorme entreprise qui le produit, elle par contre est complètement hors du respect des grandes lignes écologiques. Donc ce qui veut dire qu'en fait, j'achète rarement des vêtements neufs, je vais plutôt des vêtements recyclés. Parce que j'ai lu il y a quelques années, comme ça, par hasard, et j'en revenais pas, aux États-Unis, ils avaient fait une étude et une chemise d'homme avait une durée de vie de 2 jours. J'ai trouvé ça affolant. Voilà. Si je veux acheter du matériel, matériel informatique, micro, tout ça, quand je peux, je passe par des sites de reconditionnement. Je prends mon vélo avant ma voiture, ou mes pieds. Avant ma voiture. Oui, j'essaye. J'essaye aussi de l'inculquer aux autres. Alors des fois, je dois un peu énerver. Mais en tout cas, je me dis que plus j'en parle, et plus peut-être il y a une personne d'autre qui aura cette conscience-là. Je ne dis pas que c'est évident à mettre en place, et ce n'est pas évident à faire aussi. Mmh. Voilà. Mais c'est vrai que je vais très rarement dans les supermarchés. Et si j'y vais, des fois, c'est pour acheter une chose, parce qu'elle n'est que là. Mmh. Mmh. Voilà. C'est une autre façon de vivre. Ça demande du temps, plus de temps que de la réflexion, de la connaissance, d'aller fouiner des nouvelles choses, toujours pour aller vers un bien-être.
On voit aussi à travers toutes les choses que tu évoques, on sent que tu aimes la fête.
Oui.
Hein? Ça fait partie
de moi. Ça fait partie de moi. Avec peut-être quand j'étais jeune, un côté de la perdition de la fête, hein, de l'ivresse, des émotions. Et puis aujourd'hui, c'est vrai que j'aime quand on organise une fête, qui on va inviter, on en parle, et le partage. Chacun amène quelque chose. Ça, pour moi, c'est comme si la personne qui va faire un plat pour la fête, elle est déjà dans la fête. Voilà. Mmh. Après, j'aime les gens. Et moi, j'aime les choses simples. Aujourd'hui, depuis pas mal d'années, ce que je sens nocif pour moi, je l'écarte. Mmh.
Tu dis non.
Par exemple.
Voilà. Alors, qu'est-ce qui est le plus facile? Est-ce que c'est plus facile de dire oui ou de dire non?
C'est plus facile pour moi, hein, de dire oui, bien évidemment, puisque j'ouvre. Mais maintenant, je ne dis pas un non catégorique, je dis souvent un peut-être. Et parfois, si je dis non, je propose autre chose. J'essaie de pas fermer les choses. Je crois que pendant longtemps, on me traitait de baba cool, parce que c'est un peu peace and love. Mais aujourd'hui, je crois profondément. Je crois que l'individu, aujourd'hui, est tellement individualiste. Moi, j'essaie de faire en sorte que quand j'ai des amis de différents endroits, j'essaie qu'ils se croisent entre eux. Parce que si moi, ils m'ont touché, alors ils vont sûrement se toucher entre eux. Voilà.
Non, c'est pas un peu idéaliste, ça?
Si, complètement. Pas utopique, mais idéaliste.
Alors, on va parler un peu de ton rapport à différentes expressions artistiques, langage artistique. Alors, tu adores danser même sur les musiques que tu n'aimes pas. Mais parlons un peu des musiques que tu aimes, justement. Quelles sont les influences qui t'ont marqué, des groupes qui pour toi sont emblématiques?
Alors, Police, c'était un groupe emblématique de mon adolescence. Et Sting est un chanteur pour moi emblématique. Bob Marley, bien sûr. Les Stones, j'étais plutôt rock et
plutôt reggae. Stone que Beatles, quoi.
Oui, voilà. Mm. Mais j'ai découvert les Beatles plus tard et j'ai beaucoup aimé aussi. Et puis le blues. Je crois que ça, c'est une véritable rencontre avec le blues pour moi. Le blues et la soul et les voix de femmes.
Mm.
Voilà. Je crois qu'une voix de femme me transporte presque instantanément. Aujourd'hui, après il y a eu bien sûr la world music, ça c'est encore un truc. J'aime beaucoup les musiques traditionnelles et j'aime, donc je vais essayer de dire le mot, parce que la contemporanéité dans la vieille tradition. Et aujourd'hui, enfin depuis déjà pas mal d'années, il y a de jeunes artistes qui s'emparent de cette tradition et qui vont en rendre un autre langage, en tout cas dans la musique. Et par exemple, j'adore... ou alors qu'ils ont eu vraiment une éducation traditionnelle de la musique, voilà. et puis on sort autre chose, voilà. Dans les jeunes, je pense à Malouf Ibrahim, oui, qui me touche énormément. Voilà. Mm. Puis, ben oui, il y en a un quand même, c'est Jacques Higelin, c'est celui qui m'a suivi depuis mes 15-16 ans, jusqu'à ce qu'il s'en aille. Après, je suis pas du tout douée pour me souvenir des noms, des disques que j'écoute, donc j'enregistre, je fais une liste comme ça, et j'aime bien aussi quand... Voilà, j'écoute quelqu'un, il m'a plu, puis ben, je n'ai pas retenu son nom, c'est pas grave.
Je suis pareil.
Voilà.
Je comprends.
Le moment que j'ai passé, le moment présent que j'ai passé à écouter, à découvrir, m'a rempli. Voilà.
On va parler d'art contemporain. Tu évoques
oui,
l'art
alors,
contemporain.
Pourquoi ça m'est venu de marquer ouais. J'aime l'art contemporain, je ne sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'en ce moment, je travaille avec des artistes, des chorégraphes et qu'on travaille dans l'art, enfin dans le contemporain. En fait, l'art contemporain, qu'il soit pictural, musical ou d'écriture, ou théâtral, enfin un spectacle vivant, à une époque, je ne comprenais rien. En fait, j'étais vraiment fermée. Et donc j'ai arrêté de lire les intentions de l'artiste, par exemple, en peinture. Et souvent, il suffit simplement d'accepter que dans un musée, dans une expo, sur 50 œuvres, il n'y en aura qu'une qui va te toucher. Tant mieux. Puis elle va te toucher à un endroit particulier. Où elle va te heurter, va te mettre en réflexion. Enfin, et pour moi, c'est l'institution aujourd'hui qui s'est appropriée le fait de véhiculer l'art contemporain, et il le fait vraiment comme les institutions. Donc parfois, c'est pesant.
Tu parles de la conceptualisation qui
en tout cas,
est
de la
mise en avant.
Ouais, et de la visibilité, et du choix de ce qui est rendu visible. Voilà. Et c'est en fait en croisant d'autres plasticiens, à ce moment-là, j'ai regardé d'une autre manière, en tout cas pour tout ce qui est l'art contemporain, peinture, art plastique, les choses. Et je n'hésite pas non plus à dire que parfois, excusez-moi l'expression, c'est du foutage de gueule, c'est vrai, mais des fois c'est pas de leur faute, c'est plutôt les institutions qui vont pousser à ça. Quand je peux faire découvrir une expo ou une musique à quelqu'un de beaucoup plus jeune, qui va tout de suite dire bah, « je comprends rien », c'est pas grave, il a déjà eu une miette de quelque chose. Alors oui, j'aurais pu dire la Renaissance, non, mais la Renaissance aussi, le baroque aussi, j'aime tout ça. Mais là, en ce moment, oui, c'est l'art contemporain.
Et en littérature, tu dis que lire un livre qui avale le temps,
c'est
aussi quelque chose qui te touche. Quelle est ta sensibilité littéraire ?
Alors, j'ai voyagé, en fait, dans les différentes sensibilités, puisque j'ai été dans les grands livres, les grands auteurs français, plutôt au lycée, après fac, puis après, il y a eu les courants russes, le courant asiatique, tout ça, bon. Et puis, bon, à un moment donné, ben, c'était surtout mes grandes lectures, c'était les contes, surtout. Et puis, la littérature du Moyen-Orient aussi. Je me suis baladée un peu comme ça, littérature sud-américaine, américaine aussi, bien sûr, des grands... Et là, aujourd'hui, c'est une période. Voilà, c'est des périodes. Et là, je suis dans l'ASF et la fantasy. Alors, je peux lire les trucs très costauds, comme je peux lire un bouquin de fantasy qui est plutôt écrit pour un adolescent et que je vais lire en une journée. Ça m'est égal, mais c'est juste...
pour te nourrir.
Nourrir, voilà. Et en même temps, donc là, c'est pareil que pour les grands livres. Tu sais, je sais pas... est-ce que quand on avance dans l'âge, on est plus exigeant sur les formes d'écriture, mais quand vraiment je rencontre un livre, c'est une délectation. On n'a pas, on s'est dit, ça va être comme un merveilleux gâteau qu'on a attendu et qui est là, voilà. Ce qui fait que je lis aussi ce que lisent les autres, en fait. J'ai réalisé ça. Quand j'arrive chez quelqu'un, la première chose que je fais, je regarde les livres qui traînent. Et souvent, je dis, tiens, qu'est-ce que tu lis en ce moment, voilà. Tiens, je t'offre ce livre. J'écoute pas de. À une époque, j'étais abonnée à lire, enfin, tous ces trucs-là. Maintenant, j'écoute une sonde radio, mais c'est souvent les gens, en fait. Et je m'autorise à arrêter un livre. À une époque, je faisais pas ça. Je faisais jusqu'au bout, même si j'aimais moins. Ouais. Maintenant, je m'autorise à dire non.
C'est pas pour moi.
C'est pas pour moi. Captive pas. Voilà.
C'est ça.